cours de notre voyage économique sur les routes de la migration. Cette semaine, nous suivons les travailleurs immigrés dans leur aventure européenne. Des hommes et des femmes venus gonfler les rangs des plus précaires et qui nous interrogent sur les frontières entre travail libre et travail forcé. Hier, avec Esther Duflo, prix Nobel d'économie, nous avons battu en brèche les idées reçues sur les migrations et l'emploi. À présent, nous allons suivre l'argent de la diaspora, devenu indispensable pour les pays d'origine. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Évoquer les liens entre diaspora et développement, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités. Jean-Michel Huette avec nous en studio, expert et associé au cabinet de conseil Bearing Point, en charge du développement international et de l'Afrique, et Jason Gagnon, économiste au sein de l'unité migration et compétences du centre de développement de l'OCDE. À 14h50, le journal de l'Écho vous sera présenté comme chaque jour par Xavier Martinet.
Asseyez-vous. Madame la directrice,
les hommes de ce village qui vivent à l'étranger m'ont demandé de vous remettre cet argent pour la beauté du travail que vous faites auprès de leurs enfants. On est content de participer à vos efforts. C'est notre devoir car ici c'était ma classe. Ici, c'était ma place. Un de mes amis était assis ici. Parfois, il dormait et se faisait punir. On pensait que les maîtres étaient méchants, mais ils voulaient seulement qu'en grandissant, on réussisse. Demain, c'est vous qui porterez le pays. Accrochez-vous et étudiez.
Jean-Michel Huette et Jason Gagnon, bonjour.
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 Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre un extrait d'Amine, le film de Philippe Faucon sorti en 2018, dans lequel le personnage principal, Amine, parti travailler en France sur des chantiers, revient dans son village au Sénégal et fait un don à son ancienne école de la part de toute sa communauté expatriée en France. Depuis les années 70, les montants transférés par les migrants vers leur pays d'origine ne cessent d'augmenter, Jean-Michel Huette.
Ben oui, ça ne cesse d'augmenter et ça atteint des chiffres impressionnants. Si on regarde l'Afrique, par exemple, l'an dernier, en 2019, selon la Banque mondiale, c'était 70 milliards d'euros. Alors 70 milliards d'euros, ça veut dire quoi ? Grosso modo, si c'était un pays, ça serait le 70e pays au monde en termes de PIB, de richesse économique, le 8e ou 9e pays africain entre l'Éthiopie et le Ghana. Donc grosso modo, la somme de l'argent envoyé en Afrique par la diaspora, c'est l'économie d'un pays comme l'Éthiopie de presque 100 millions d'habitants.
Des transferts qui ont tellement augmenté qu'ils représentent aujourd'hui plus que l'aide publique au développement, Jason Gagnon ?
Oui, oui, exactement, c'est ça. On parle d'aujourd'hui, comme l'évoquait Monsieur Huette, en 2019 de 717 milliards, la plupart ayant à des pays à faible revenu d'environ 548 milliards, donc 75%. Et des flux, comme vous le disiez, des transferts de fonds par PIB qui touchent en moyenne, par exemple en Afrique, plus important que l'aide au développement, donc vers environ presque 4%, tandis que l'aide au développement...
4% du PIB plutôt,
4% du PIB, exactement, et par comparaison, le pourcentage de l'aide au développement, l'aide publique au développement au PIB est plutôt de 2%, de l'investissement direct venant de l'étranger plutôt vers les 1,5-2%. Donc c'est quand même des valeurs très importantes, mais qui changent d'une sous-région à une autre en Afrique. Donc en Afrique du Nord, par exemple, c'est très élevé, et par exemple les transferts de fonds par PIB. Dans d'autres régions comme l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, on trouve encore des grandes différences entre, par exemple, l'aide au développement au PIB, par rapport au PIB, contre les transferts de fonds au PIB.
On va revenir dans le détail sur la réception de ces transferts financiers dans les différents pays et sur l'usage qui en est fait. Mais d'abord, il faut dire, Jean-Michel Huette, que si ces transferts financiers ont augmenté ainsi, c'est d'abord parce que le nombre de migrants a considérablement augmenté au cours des 50 dernières années.
Il y a plusieurs phénomènes. Il y a effectivement le nombre de migrants qui a beaucoup augmenté, donc ça a un effet volume entre guillemets. Mais puis aussi un phénomène qui est que ce nombre de migrants augmente, ils s'installent dans des pays, en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs, et quelque part ils commencent aussi à développer une activité économique locale, ils ont des emplois, des jobs, et donc ils s'enrichissent. Et de classe populaire, ils peuvent devenir classe moyenne. Parfois des envies de retour, ça, je pense qu'on en reparlera, mais donc leurs revenus augmentent et très clairement, on voit aussi une évolution du nombre d'argent envoyé dans le pays d'origine en fonction de l'évolution du revenu. Donc il y a un double effet, un effet volume parce que plus grand nombre de migrants et puis un effet valeur parce que les migrants d'aujourd'hui, peut-être deuxième, troisième génération, parce que aussi les enfants, ils ont plus de revenus.
Plus de revenus parce que en effet, il y a de plus en plus de migrants qui sont qualifiés et qui envoient de l'argent à leur pays d'origine, Jason Gagnon.
Oui, effectivement, et de plus en plus l'éducation moyenne, par exemple dans des pays en Afrique, augmente de plus en plus la diaspora où les flux migratoires sont éduqués et donc gagnent un revenu plus élevé et donc ont une capacité de transférer des plus grandes sommes d'argent et donc ce qui se traduit en une somme beaucoup plus importante au niveau macroéconomique et qui est éventuellement avec cette éducation, soit financière, soit numérique, ainsi de suite, qui est utilisée de plus en plus efficacement.
Pour beaucoup de pays du Sud, ces transferts d'argent de la diaspora sont devenus des sources de revenus essentielles. Mais avec la crise du Covid, ces transferts ont baissé, Jason Gagnon, même s'ils ont moins baissé que prévu.
En général, on constate qu'il y a eu une baisse, et effectivement, mais comme vous le dites, moins importante qu'on l'ait plus cru, et pas nécessairement partout. Par exemple, en Amérique latine, on commence à constater déjà avec les nouvelles données qui sortent pour toute l'année 2020, qu'il y a eu en moyenne une augmentation d'environ 1%, et que très peu de pays ont connu une baisse. Il y a la Bolivie et le Paraguay, mais en général, c'était des augmentations. Et ça, on peut s'imaginer pourquoi. Premièrement, quand il y a un choc comme cette pandémie, les transferts de fonds ont tendance à augmenter. Mais aussi, les migrants eux-mêmes tendent à changer de comportement pour assurer que les flux ne baissent pas.
Bon, alors ça, même ça que leurs revenus à eux peuvent baisser.
Exactement.
Dans ce contexte de crise.
Dans la crise 2009, par exemple, juste pour donner une anecdote, on sait que dans les pays du Golfe, il y avait en moyenne des comportements, par exemple, où les migrants dormaient il y avait plus de personnes qui dormaient ménage, par maison, pour effectivement épargner plus au niveau des salaires sur le loyer.
Donc plus d'efforts sont consentis, Jean-Michel Huette, dans les périodes de crise pour pouvoir envoyer encore plus d'argent dans des pays qui ne bénéficient pas nécessairement de systèmes de protection sociale.
Ah bah oui, c'est un des moyens. Un des gros problèmes qu'on a eu, notamment les pays africains avec la crise du Covid, c'est que toute l'économie informelle a un peu été touchée. Et contrairement à la France, il n'y a pas d'activité partielle, il n'y a pas de prêt garanti par l'État. Donc c'est toujours un double effet négatif, c'est que les plus pauvres souvent sont ceux qui souffrent le plus. Et donc il y a eu un vrai besoin, et pour des choses très basiques, c'est de l'aide alimentaire par exemple. Mmh. Donc on ne va pas chercher des choses très sophistiquées. Et je rejoins Jason, en dehors de la zone Amérique latine-Caraïbe qui est à peu près stable, grosso modo on estime qu'il y a eu une baisse des transferts globaux, des diasporas dans le monde autour de 10%. L'Afrique a été plutôt préservée. Les chiffres de la Banque mondiale indiquent moins 8, moins 9%. Et la zone la plus touchée, c'est l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, qui a eu une baisse d'environ 15%.
Alors, les transferts ont un peu baissé, mais les migrations ont également chuté en 2020 et le phénomène devrait se poursuivre en 2021. Dans ce contexte de crise pandémique, il faut s'attendre à ce que cette hausse des transferts d'argent depuis les années 70, dont on a parlé au début de cette émission, Jean-Michel Huette, se ralentisse durablement.
Pas sûr, parce que c'est pas forcément les gens qui migrent l'année N qui vont être les plus gros donateurs. Encore une fois, il y a un phénomène historique de stock, et puis aussi, de fait, des fois, ça peut être aussi des enfants la diaspora qui donne de l'argent et qui en envoie. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet immédiat. Il peut y en avoir, mais à mon avis, il sera plutôt limité. Et puis il y a aussi un autre phénomène qu'on a constaté, c'est que les moyens d'envoyer de l'argent ont aussi évolué. On en parlera tout à l'heure, mais cette année, en 2020, on a noté plus 30% d'usage des moyens digitaux. Donc ça facilite aussi les rythmes de transfert.
Alors on va y revenir en effet, mais d'abord je voudrais vous faire entendre un extrait du roman Americana de la romancière nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, qui raconte l'histoire d'Ifemelu, parti faire ses études aux États-Unis et qui garde les enfants d'une Américaine nommée Kimberly. Kimberly dit qu'il s'agissait d'une prime d'engagement. Jinika m'a dit que vous aviez passé des moments difficiles. Je vous en prie, ne refusez pas, dit-elle. Il ne serait pas venu à l'esprit d'Ifemelu de refuser le chèque. À présent, elle allait pouvoir payer certaines factures et faire un envoi à ses parents. Sa mère aimait les chaussures qu'elle lui avait expédiées, pointues, ornées de pompons, le genre qu'elle pouvait porter à l'église. Quand sa mère lui raconta qu'ils avaient été privés d'électricité pendant 2 semaines, elle se sentit soudain étrangère et la maison lui parut lointaine. Elle n'arrivait plus à se souvenir de ce qu'était une soirée passée à la lueur des bougies. Elle ne lisait même plus les nouvelles sur Nigeria.com parce que chaque titre, même le plus improbable, lui rappelait Obinze. Obinze, qui est donc le grand amour d'Ifemelu, resté au pays, extrait d'Americana, l'excellent roman de Chimamanda Ngozi Adichie, paru en 2013. Dans ses transferts financiers vers le pays d'origine, Jason Gagnon, il faut distinguer l'envoi d'argent à la famille et les investissements.
Pas nécessairement. Il y a des transferts qui se font aux ménages qui sont aussi utilisés au niveau de l'investissement. Mais c'est vrai que en moyenne, on constate que les transferts de fonds sont plutôt utilisés pour la consommation. Quoi qu'il y a quand même des investissements qui se font et ça c'est quand même quelque chose d'important pour le développement. Mais il y a aussi, faut pas oublier, les transferts qui se font par groupe et les transferts qui se font par les associations de villes ou villages ou quartiers d'origine qui ont comme objectif d'investir dans des investissements un peu plus structuraux, institutionnels, mais au niveau du village, genre des ponts, des écoles, des infrastructures pour aider aux lacunes dans certaines régions où l'investissement ne se fait pas.
Ce que l'on constate, Jean-Michel Huette, c'est que plus les pays sont pauvres, plus les dépenses sont tournées vers l'alimentation. Et il y a des pays dans lesquels, au contraire, les investissements sont plus importants.
Ah bah exactement, il y a une sorte de corrélation. Plus les pays ont des économies pauvres, un revenu par habitant faible, plus ces fonds vont aller pour la vie courante, notamment l'alimentation, mais aussi la santé, enfin, il peut y avoir d'autres sujets, alors que plus le niveau de vie est élevé, plus il peut y avoir de l'investissement. On estime par exemple qu'au Maroc, 40% des fonds de la diaspora sont pour de l'investissement immobilier. Donc c'est assez significatif. Et puis j'ai bien aimé l'extrait que vous avez cité, parce que le Nigeria est quand même un pays qui bénéficie beaucoup de ces fonds. On estime que c'est 25 milliards d'euros en 2019, les fonds de la diaspora. Je rappelle, 70 milliards sur l'Afrique, donc c'est une partie importante du Nigeria. Et pour vous rendre compte que ça représente, c'est presque 85% du budget fédéral du pays. Donc c'est absolument colossal pour l'économie locale.
Colossal, en effet. Et alors, quels sont les types d'investissements, notamment en Afrique, continent que vous connaissez particulièrement bien, Jean-Michel Huette? Vous avez parlé de l'immobilier, il y a aussi des investissements dans l'agriculture, notamment.
Investissement dans l'agriculture, je rappelle que 60% des Africains travaillent encore dans ce secteur. On a peut-être oublié ça vu de France, mais ça reste un secteur économique important. Et des gens qui ont besoin d'aide. En moyenne, un agriculteur en Afrique subsaharienne gagne 1000 euros par j'ai bien dit par an. Donc très souvent, ils ont besoin d'aide. Et là, c'est l'aide de la famille ou des amis qui sont à l'étranger. Après, vous avez toute une partie qui sont des investissements. Alors, ça peut être des investissements immobiliers, mais ça peut être aussi des investissements, notamment dans le domaine de l'éducation. Il y a beaucoup de projets éducatifs qui sont financés par la diaspora, ce qui est un vrai sujet.
Un vrai sujet, justement. Je voudrais vous faire entendre là-dessus Cathy Jatou Maroussama, qui est sociologue et membre du centre de réflexion Thinking Africa.
L'une des recommandations que je propose justement, c'est de mettre en place des écoles éventuellement sous-régionales en Afrique afin que les étudiants africains puissent rester en Afrique, se former sur vraiment des problématiques qui sont propres à l'Afrique. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent se former en Occident. Quand ils rentrent, soit ils sont trop diplômés, soit la filière dans laquelle ils se sont formés n'est pas très développée, donc il n'y a pas de poste pour eux. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut en fait que les Africains arrivent à créer des universités, des centres de recherche, des écoles régionales qui sont vraiment en lien avec les problématiques africaines afin de trouver en fait vraiment des solutions aux problèmes que nous rencontrons au quotidien en Afrique. Parce qu'on le dit, hein, les discours le disent, il y a des discours qui disent que effectivement, l'avenir de l'Afrique se trouve dans sa jeunesse.
Voilà un extrait du temps du débat d'été présenté par Camille Diao le 6 août dernier. Jean-Michel Huette, il y a donc un enjeu très important d'investissement dans l'éducation aujourd'hui en Afrique.
Ah bah c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a deux domaines d'investissement qui sont clés pour l'Afrique. C'est d'une part l'électricité, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un enjeu clé pour l'économie et la vie quotidienne. Et l'autre, c'est l'éducation. L'explosion démographique de l'Afrique, hein, qui est devant nous. Faut rappeler que l'Afrique, c'était 600 millions d'habitants il y a 30 ans. Ça sera plus de 2 milliards dans 30 ans. Donc c'est quand même une croissance assez phénoménale. L'Afrique, au début du XXe siècle, c'était 5% de la population mondiale. On estime, c'est les projections, mais peut-être que notre ami économiste précisera, qu'en 2100, l'Afrique sera 40% des habitants dans le monde.
Et donc une jeunesse qu'il faudra éduquer.
Donc une jeunesse qu'il faut éduquer, effectivement.
Jason Gagnon.
Oui, je ne peux que constater la même chose. Il y aura un doublement de la population africaine entre 2020 et 2050. Cela implique deux choses, une relative et l'autre absolue. La relative, c'est que il y aura une jeunesse qui va accroître beaucoup plus rapidement que les autres cohortes. Donc, encore une fois, une jeunesse non seulement à éduquer et mettre dans les systèmes scolaires, mais aussi à former, je veux dire, mais aussi à mettre sur le marché du travail. Et il y aura évidemment un basculement, puisqu'on sait que, on peut constater que certains endroits ne pourront pas nécessairement absorber toute cette masse de main-d'œuvre potentielle. Et donc il y aura des flux non seulement africaine vers l'Europe, mais aussi intra-africaine, d'où toute une autre discussion par rapport au transfert de fonds et des moyens de transfert dans des systèmes qui ne sont pas entièrement adapté à ce genre de transfert.
On a dit que les transferts financiers de la diaspora représentaient plus que l'aide publique au développement, mais ce qui est intéressant, Jean-Michel Huette, c'est qu'ils représentent aussi plus que le total des investissements des entreprises étrangères dans les pays à bas et moyens revenus. Donc aujourd'hui, ce sont ces migrants qui représentent véritablement les premiers acteurs du développement, en particulier en Afrique.
Ah bah oui, et on parlait du Nigeria, pour reprendre toujours l'exemple du Nigeria, les fonds de la diaspora, c'est 11 fois l'investissement direct des entreprises au Nigeria. 11 fois, donc c'est pas juste le double, c'est 11 fois plus important. Donc c'est un enjeu clé. Ça s'est renforcé aussi parce que il y a toute une vague, on en reparlera je pense tout à l'heure, autour des startups, du digital, qui font qu'il y a de plus en plus d'investissements dès la diaspora dans ces structures-là. Et parfois même, c'est pas que de l'argent dans l'investissement de la diaspora, ça peut être de l'argent, ça, bien sûr, mais ça peut être aussi du savoir-faire et d'aider au développement de ce nouvel écosystème.
Ce qui permet, effectivement, à ces migrants ou enfants de migrants comme Didier Soumaré, qui a ouvert le premier magasin Apple au Mali, d'investir comme ça dans leur pays d'origine, c'est à la fois une connaissance du marché, puis aussi des compétences acquises en France et l'accès aux capitaux, Jean-Michel Huette.
C'est l'accès aux capitaux, les compétences acquises en France ou en Europe, et puis c'est aussi d'avoir, parce que c'est la famille, les amis, des contacts au niveau local. Le développement depuis l'Europe en Afrique, si on n'a pas des contacts au niveau local et les bons réseaux, ça ne marche pas. Et comme le disait Jason avec raison, il y a l'enjeu de la formation qui est important, mais après, une fois qu'on a formé les jeunes, il faut leur trouver un emploi. Et donc la création d'entreprises, alors ça peut être dans des secteurs très innovants, mais des secteurs aussi très traditionnels, dont l'agriculture, eh bien c'est un enjeu clé, parce que si demain on a 1 milliard d'enfants formés, c'est bien, et c'est pas encore gagné, mais quoi, demain ce sont des chômeurs, il y aura un énorme problème économique en Afrique.
L'avantage aussi de ce transfert d'argent, mais aussi de ce transfert de compétences, Jean-Michel Huette, c'est qu'il n'y a pas de risque d'ingérence, c'est beaucoup mieux accepté dans les communautés, dans les villages, dans les villes, où il y a une possibilité d'en bénéficier.
Oui, c'est bien accepté. Après, des fois, il peut y avoir des crispations. Je me souviens être intervenu au Congo sur justement tout ce qui était financement de start-up et incubation. Et on avait dit que l'argent de la diaspora pouvait aider. c'est parfois mal perçu, parce que malgré tout, il peut y avoir quelques petites tensions, donc c'est pas aussi net que ça.
Comment cet argent est-il envoyé, Jason Gagnon? Les transferts électroniques ont remplacé les tontines d'autrefois?
Il y a quand même une tendance dans ce sens, mais dans certaines régions, et si on parle de l'Afrique surtout, on dirait presque probablement la moitié des transferts de fonds se font par des voies assez informelles, surtout entre pays africains. Par l'informel, je comprends tout ce qui est main à la main ou des réseaux qui sont quand même établis par quart d'un pays à l'autre. Mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a durant cette pandémie, puisque ces voies-là n'étaient plus accessibles, il y a quand même un basculement, probablement très systématique, vers des voies plutôt formelles et numériques. Et on sait que, par exemple, il y a des boîtes qui existaient déjà, mais il y en a des nouvelles qui se sont mises sur place, et il y en a qui ont vraiment explosé en termes d'utilisation. Par exemple, la société Mukuru en Afrique du Sud a connu un essor énorme depuis 12 mois, et surtout de gens qui n'étaient pas nécessairement des clients auparavant. Donc vraiment, il y a eu ce basculement vers une utilisation de transferts numériques qui n'existait pas nécessairement avant.
Essor depuis 12 mois, mais en réalité, ça fait une décennie à peu près que des acteurs historiques comme MoneyGram ou Western Union sont bousculés par les nouveaux acteurs de la fintech, Jean-Michel Huet.
Ah bah oui, ça fait environ... Le paiement mobile, ça a beaucoup accru à partir de 2008 en Afrique. Ça existait un peu avant, mais ça a vraiment explosé en 2008. Donc ça fait plus de 12 ans maintenant. Et pour une bonne raison. C'est grosso modo, pour se rendre compte des masses économiques, on estime qu'au niveau mondial, les frais liés au transfert d'argent, donc là pour le coup, quand c'est pas de la main à la main, mais quand ça passe par une institution financière qui peut être une banque, la Poste, MoneyGram ou demain les opérateurs télécoms, c'est quand même 6,8%. Donc c'est pas neutre. Et en Afrique, c'est le continent le plus taxé. Les dernières études, et encore ça a bien baissé, font état de frais de finance, de frais de transfert autour de 8-9%. Sachant que dans les objectifs de développement durable, l'objectif en 2030, c'est d'être à 3%. Donc, vous voyez, on est encore loin.
Pourquoi des taux aussi hauts en Afrique?
Parce que certains acteurs, et je pense notamment les MoneyGram Western Union, avaient une situation de quasi-monopole, entre guillemets, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Donc, ils en faisaient profiter, je dirais, leur propre économie. Maintenant, il y a une concurrence, notamment des acteurs autour du digital, donc des opérateurs télécoms, mais pas que. Il y a aussi des startups qui font ça et qui tendent à aller mettre les prix vers du plus bas. Pour se rendre compte, il y a une ONG qui s'appelle ODI qui avait fait une analyse. Le surcoût, entre guillemets, en Afrique de ces frais de transfert d'argent par rapport à la moyenne mondiale, donc 8,5% versus 6,8%, c'est très simple. En 2018, ça aurait permis de financer la construction de 14 millions d'écoles. 14 millions d'écoles.
Donc il y a un enjeu considérable autour de la diminution de ces coûts de transaction qui a déjà commencé, Jason Gagnon, mais il y a encore un long chemin à parcourir.
Oui, absolument. Donc comme ça a été évoqué, il y a quand même eu un objectif du développement durable qui a un objectif de coût de transfert de fonds de 3%, mais on est toujours très loin de ça. Dans une part, on ne sait pas exactement le vrai coût, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, une grosse part des transferts de fonds se font par l'informel, et on n'a pas trop d'études sur combien coûtent ces canaux par informel. Mais de l'autre côté, avec ce basculement vers la formalisation et la numérisation des transferts de fonds, il se peut aussi qu'on creuse de plus en plus les inégalités à l'accès des bénéfices des transferts de fonds et des migrations en général. Et donc, il y a des formations financières, des formations numériques, l'accès aux banques, l'accès aux technologies numériques qui doivent suivre avec ce basculement pour assurer que ces bénéfices et que ces accès sont équitables.
Oui, car le taux de pénétration d'Internet en Afrique, c'est quoi? C'est entre 25 et 40% de la population totale, Jean-Michel Huet?
Oui, c'est à peu près ce taux-là. Ça a beaucoup progressé depuis 15 ans, mais l'Afrique reste encore le continent le moins connecté. Faut en avoir conscience. Après, pour faire des transferts de fonds, pas besoin d'Internet. Il suffit de SMS. Donc, ça peut être pas besoin d'avoir une couverture, pas besoin de la 4G ou de la 5G pour cela. Et puis, pour revenir sur le point évoqué sur les frais. On n'a pas les frais, effectivement, quand c'est donné de la main à la main, ça ne peut pas être tracé. Par contre, sur les circuits plus formels, on sait que une banque va prendre en moyenne en Afrique 11%, alors que les acteurs type opérateurs télécoms digitaux, on est plutôt entre 2,5 et 3%. Donc on voit quand même l'écart.
un écart important. Et alors aussi, il y a des startups qui ont lancé un nouveau concept, le cash to goods. L'idée, c'était que les fonds soient convertis en coupons permettant d'acheter des biens de consommation. C'était une idée intéressante, Jason Gagnon, mais finalement, ça n'a pas pris.
Pardon, vous pouvez répéter, je suis désolé.
C'était un concept, le cash to goods, qui permettait aux bénéficiaires de ces fonds d'acheter des biens de consommation grâce à des coupons. On voit qu'il y a des innovations comme ça qui se sont multipliées ces dernières années pour permettre toujours de diminuer ces coûts de transaction qui restent importants, mais ce sont des initiatives qui fonctionnent plus ou moins bien.
Oui, je vais être très franc avec vous. Je ne connais pas du tout le cash to goods, ce concept, mais effectivement, il y a eu pas mal d'initiatives qui ont baissé les coûts, notamment tout ce qui est le basculement vers la numérisation et surtout ce transfert par SMS qui existe depuis pas mal d'années en Afrique.
Jean-Michel Huette.
Oui, le cash to goods avait été initié il y a quelques années par des acteurs notamment du e-commerce, hein, comme Jumia. Le succès est limité pour une raison très simple, hein, cash is king. Hein, donc à la rigueur, c'est plus facile d'avoir l'argent et de dire à quoi je vais l'allouer que d'avoir des bons qui sont peut-être parfois plus compliqués à gérer. Et qu'une fois qu'on a l'argent, alors l'argent ça peut être de l'argent virtuel ou de l'argent via des minutes de téléphone. Hein, vous savez, il peut y avoir du troc et des transactions à ce niveau-là. Mais avoir de l'argent, ça permet de dire aujourd'hui la priorité c'est d'acheter de la viande ou du poisson. Mmh. Ou la priorité c'est un médicament.
Alors est-ce que cet argent de la diaspora favorise le développement, la croissance économique des pays d'origine? On en parle dans un instant.
Imagine Ghana like California with Sunset Boulevard, Johannesburg would be Miami, Somalia like New York with the most pretty light, the toughest pretty car, every New Year the African Times Square lock up. Imagine Lagos like Las Vegas, the ballers them a ball, Angola like Atlanta, a pure plane take off, Bush Gardens in a Mali, Chicago in a Chad, Magic Kingdom in a Egypt, Philadelphia in Sudan, the Congo like Colorado, Fort Knox in Agyaban, people living in Morocco like the state of Oregon, Algeria warmer than Arizona, bring your sun lotion, early morning class of yoga, on the beach in Senegal, Ethiopia the capital for the congregation, and that's how I belong, and where the king come from. I can see us all in limos, Jaguars and limos, riding on the king's highway. Promised land, I picture Porsches, Basquiat portraits, pinky rings, realistic princesses, heiresses, bunch of kings and queens. Plus, I picture fortunes for kids out in Port-au-Prince. Powerless, they not allowed to fit, but not about to slip. Vision promised land with fast.
Land of Promise, Nas et Daniel Marley sur France Culture. Entendez-vous l'écho, l'argent de la diaspora au cœur du développement. C'est notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie de Jason Gagnon, économiste à l'OCDE, et de Jean-Michel Huette, associé au cabinet de conseil Bearing Point en charge de l'Afrique. Alors, ces transferts financiers représentent des sources de richesse considérables pour les États. Quels sont les pays, Jean-Michel Huette, qui aujourd'hui en bénéficient le plus?
Alors, si on prend les pays africains, sachant que l'Afrique est la troisième zone au monde avec le plus d'argent des diasporas, hein, derrière l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine et Caraïbes, le plus gros, c'est Nigeria, c'est son nom que j'évoquais, hein, c'est 25, presque 25 milliards d'euros sur les 70. Ensuite, on a le Ghana, le Kenya, le Sénégal, premier pays francophone bénéficiaire. Pour le Sénégal, c'est 2 milliards d'euros quand même, donc c'est pas neutre. Et le Zimbabwe. Mmh. Alors ça, c'est en volume. Après, si on regarde par rapport à la richesse du pays, évidemment, il y a d'autres pays qui apparaissent, mais c'est des pays plus pauvres. Par exemple, un pays comme le Liberia, c'est un quart de son PIB qui vient de la diaspora. Les Comores, qui est un des pays les plus pauvres au monde, hein, c'est 20% de son PIB, la Gambie 15%, le Lesotho aussi 15%. Donc, vous voyez, il y a des gros volumes d'un côté, puis il y en a certains où c'est un enjeu vital pour la vie du pays.
Et si on regarde au niveau mondial, ce sont l'Inde et la Chine qui arrivent en tête, Jason Gagnon?
Oui, oui, exactement. Et juste pour réévoquer sur les points qui ont été évoqués déjà par Monsieur Huette, l'Égypte et le Nigeria ont quand même des sommes incroyablement élevées pour l'Afrique et sur le point du pourcentage du PIB. C'est vrai que d'un côté, il y a des petits pays qui sont récepteurs d'une ordre de magnitude de entre 30 et 40%. Mais il y a aussi des pays qui sont plutôt moyennement riches, comme le Liban et le Cap-Vert, qui ont quand même des taux assez élevés aussi. Donc il y a des pays qui sont quand même très... Je ne sais pas si le bon mot c'est bénéficiaire de transfert de fonds, puisque cela les met un peu à un risque de fluctuation
et de dépendance.
Et de dépendance et de diversité parmi les pays qui les envoient.
Alors justement, quels sont les effets de ces transferts financiers? Le premier constat, Jean-Michel Huette, c'est qu'ils permettent de faire reculer la pauvreté dans certains pays comme le Népal, le Bangladesh ou encore l'Ouganda. Ça, c'est le constat que fait la Banque mondiale.
Bah oui, ça a un vrai impact, encore une fois, parce que quand c'est, même sans parler d'investissement, hein, quand c'est de l'argent pour la vie courante, ne serait-ce que l'alimentation ou la santé, bah, c'est un vrai impact. Et encore une fois, faut se rendre compte que dans certains pays, le niveau de vie par habitant, c'est 500, 600, 700 euros par an. Mmh. Donc, vous voyez, il y avait une étude du Club Efficience qui disait que sur les pays africains, une estimation de ce que pouvait être par migrant, les dons, enfin, via la diaspora, hein, on était autour de 2000 euros. Donc 2000 euros, ça peut dans certains pays représenter deux ans de niveau de vie.
En revanche, est-ce que ces flux financiers de la diaspora créent de la croissance? La réponse est un petit peu plus compliquée. Pour qu'ils créent du développement, ces transferts, il faut qu'ils soient investis. Et déjà, tous les systèmes financiers ne le permettent pas, Jean-Michel Huette?
Bah, il faut effectivement qu'ils soient investis. On l'a vu, il y a quelques secteurs qui bénéficient de ces investissements. L'immobilier, mais alors l'immobilier n'a pas un impact direct sur la croissance. Hein. L'éducation, il y a des projets éducatifs, là, ça a plus d'impact. Et puis, tout ce qui va être l'investissement dans plutôt des entreprises, voire des start-up, hein, si on parle sur du digital. Donc là, ça a quand même un vrai impact. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est quelque chose qui nous vient plutôt de l'Inde, du Pakistan, même d'Israël. C'est ce qu'on appelle les bonds, les diaspora bonds.
Et donc là, c'est des obligations.
Exactement, des obligations du financement de l'État. Le Nigeria, par exemple, en a pas mal bénéficié en Afrique.
Alors justement, sur cette question des obligations, c'est intéressant de voir qu'il y a un certain nombre de pays qui émettent des obligations pour que leur diaspora finance des projets. Là, on retrouve, comme le disait Jean-Michel Huette, l'Inde, mais aussi le Liban, le Sri Lanka. Est-ce que cela fonctionne bien, Jason Gagnon?
Dans certains pays, cela a très bien fonctionné. Par exemple, en Inde, les systèmes, les obligations de la diaspora ont très bien marché. L'Inde est en croissance. Ils sont aussi en demande de fonds, de financement. Et ils ont aussi une diaspora qui est éduquée, qui gagne très bien des salaires dans les pays d'accueil de l'OCDE, surtout par exemple dans le Silicon Valley. Et il y a aussi eu des systèmes d'obligations de la diaspora qui ont moins bien fonctionné. Par exemple, en Éthiopie, la première fois qu'ils ont essayé, ça va pas très très bien marché, ils se sont remis et ils ont relancé une deuxième fois et cela semble mieux marcher maintenant. Mais c'est vrai que c'est une voie pour accroître les transferts de fonds et l'investissement dans le pays qui est de plus en plus intéressant pour les pays. Il y a pas mal de pays qui commencent à s'y tourner, y compris, par exemple, Israël, comme l'a été mentionné tout à l'heure par M. Huette.
Alors, il y a ces obligations, mais il y a peut-être d'autres moyens pour les pays bénéficiaires de ces transferts financiers de la diaspora d'attirer les investissements. Quels sont ces différents leviers, Jean-Michel Huette?
Ah bah, déjà, il y a beaucoup de pays qui font un peu de la communication autour de cela et qui proposent déjà de dire n'hésitez pas à investir quand vous venez de la diaspora. Donc, ils veulent tirer ses fonds, c'est de la communication. Après, il peut y avoir différents véhicules. Un de ceux qui a le plus d'impact sur l'économie, c'est le financement, enfin les levées de fonds, hein, pour les entreprises. Et le phénomène intéressant, c'est que les derniers chiffres qu'on a par Partech et le cercle des économistes, c'est que les levées de fonds, par exemple sur l'Afrique, ont cru de 44% l'an dernier, malgré la crise Covid. Donc, il y a eu à peu près presque 400 levées de fonds. Et la part de la diaspora dans ces levées de fonds a cru de 90%. Donc ça veut dire qu'il y a une surutilisation de cette levée de fonds et un surusage de la diaspora.
C'est un enjeu important, notamment pour le Moyen-Orient et le Maghreb, qui ont l'une des diasporas les plus importantes au monde, mais qui pour le moment reçoivent encore peu d'investissements du secteur privé, Jean-Michel Huet.
Bah oui, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on parle des migrants, que souvent ces migrants restent dans le même continent. La majorité des migrants africains restent en Afrique. Mais quelque part, ceux qui vont avoir le plus de moyens, parce que, encore une fois, l'économie est plus grande d'envoyer de l'argent, c'est ceux qui vont migrer dans les pays dits développés. L'Europe, l'Amérique du Nord, etc. Donc, quelque part, quand vous avez une forte diaspora, ce qui n'est déjà pas le cas de tous les pays, donc il y a une inégalité à ce niveau-là, et qu'en plus, c'est une diaspora qui va dans les pays où on peut, entre guillemets, plus facilement s'enrichir, eh bien, ça va augmenter mécaniquement les flux de bénéficiaires de ces flux de la diaspora.
Sur le rôle des États bénéficiaires de ces flux, pour vous, Jason Gagnon, les États ont aussi un rôle à jouer sur la planification à long terme afin que ces fonds soient bien orientés vers des projets de développement.
Oui, absolument. Premièrement, il y a tout le secteur financier et le secteur numérique, comme on l'a déjà plus ou moins évoqué durant cette dernière demi-heure. Il y a premièrement le secteur financier pour les transferts eux-mêmes. Deuxièmement, le secteur financier, puisque bon secteur financier avec des banques et l'accès aux banques et l'accès à l'investissement pour l'investissement lui-même dans le pays d'accueil des transferts de fonds. Le numérique, puisque cela accroît aussi les transferts de fonds, mais aussi toutes les politiques publiques qui pourraient interagir avec l'utilisation de ces fonds, c'est-à-dire même les politiques publiques qui touchent le marché du travail, la recherche de l'emploi, les subventions agricoles, les subventions pour l'école, et ainsi de suite. Tout ça joue un jeu dans l'utilisation des transferts de fonds et toutes les bénéfices qui pourraient en sortir, et même, par exemple, l'égalité des genres.
Jean-Michel Huet.
Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Je rajouterais juste peut-être un point. Vous savez, il y a la fameuse expression « on ne prête qu'aux riches ». Ben, les flux de la diaspora suivent aussi cette même règle. 80% des flux des diasporas pour les levées de fonds dans les entreprises sont dans 4 pays. Nigeria, Afrique du Sud, Égypte et Ghana. 4 pays sur 50. Sur 54, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi une inégalité à ce niveau-là. Là, je parle uniquement des levées de fonds venant de la diaspora, hein, pas de l'argent pour la vie quotidienne. Mais ce qui a, je pense, le plus d'impact, parce que ça finance des entreprises, c'est quand même concentré sur quelques pays.
Et c'est là peut-être que les pays d'accueil, ceux qui reçoivent, qui accueillent ces migrants en Europe et en Amérique du Nord, ont un rôle à jouer, justement, pour faciliter l'épargne et le transfert de cet argent vers des projets de développement, Jean-Michel Huet.
Ah bah oui, ça, d'une part, ça peut être une décision des politiques publiques aussi, parce qu'encore une fois, on l'a dit, c'est 2 à 2,5 fois plus que l'aide publique au développement. Donc il y a un vrai enjeu économique. Et puis par ailleurs, ça peut être aussi le rôle de certaines entreprises privées. Ça fait plus de 10 ans que certains opérateurs télécoms français ont facilité le fait de pouvoir dire « Tiens, je prends de l'argent qui est prélevé sur ma facture que j'ai en France et qui peut être envoyé via très simplement SMS pour donner de l'argent ou au moins des mutes de communication à sa famille dans un pays africain, par exemple. »
Lors de la visite à Paris du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, en juillet 2019, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée 400 représentants de la diaspora africaine. Et pour Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde, c'est un signal important, on l'écoute.
En fait, la première chose, un président français, donc l'institution, au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, invite la diaspora à l'Élysée pour un échange direct. Donc, de fait, il y a une reconnaissance politique. Je pense que c'est la première fois que les diasporas en France sont reconnues et reçues en tant que telles, en tant que membres de la société, en tant que groupe constitué, en tant que porteur d'une parole au sein de la République. Et ça, c'était très, 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 très important. Ça se sentait dans les débats. C'était très passionné. C'est très vif. Mais tout le monde reconnaissait que cet espace de parole était inédit et il y avait un grand, grand besoin. D'ailleurs, il y avait un sentiment, malgré les 2 heures de discussion, de frustration. Et il a promis de recommencer ce genre de rendez-vous parce qu'évidemment, la salle en redemandait, les acteurs de la société civile en redemandaient. Il faut noter aussi que c'est la première fois que, en tout cas, ce qu'on nomme confusément diaspora ou cette partie de la frange de la société française est reçue sans qu'il y ait une tension. Quand vous prenez 2005, la première fois que le président de la République française reçoit des populations d'origine immigrée ou diasporisée, c'était pendant les émeutes. moment où il y a eu la mort de Ziad et Bounal. Et le message était envoyé, bien sûr, c'est un problème, la diaspora est un problème.
Jason Gagnon, on assiste en France à une reconnaissance croissante de la diaspora et du rôle qu'elle joue dans les pays d'accueil et dans les pays d'origine.
Oui, oui, effectivement, on vient de l'entendre et je pense que c'est le cas dans plusieurs pays. Il y a de plus en plus d'agences d'aide au développement, des pays donateurs qui reconnaissent ce rôle du lien entre migration et développement, et diaspora et développement particulièrement, et le rôle des transferts de fonds, mais aussi ce qu'on appelle les transferts sociaux. Et avec ce basculement, il y a vraiment une demande pour se tourner vers cette population pour jouer un plus grand rôle dans les initiatives qu'ils peuvent avoir dans les pays les pays d'accueil de transfert de fonds.
C'est le cas en France
d'origine diaspora.
C'est le cas en France de l'AFD, l'Agence française de développement, qui cofinance des projets portés par les migrants dans leur pays d'origine, Jean-Michel Huette.
Oui, notamment. Et sachant que quand on parle de ces financements, c'est à la fois parce que ça peut permettre de compléter et d'abonder des financements, mais la diaspora, c'est pas que de l'argent, c'est aussi des compétences. Et il y a aussi un encouragement, et notamment d'acteurs comme l'AFD, à faire en sorte eh bien, que la diaspora dans les pays européens aide aussi sur le fond, hein, donc sur les travaux, au développement économique, en apportant de la compétence, du savoir-faire, etc.
Alors, ce profil des migrants qui envoient de l'argent, ces profils ont évolué, on l'a dit tout à l'heure, il y a une plus grande qualification de ces travailleurs, et puis peut-être aussi, Jean-Michel Huette, les migrants veulent de plus en plus choisir l'utilisation de leurs fonds de transfert.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que de quelque chose qui était très, pour la vie courante et le besoin à très court terme, ce qui était tous les sujets autour de l'alimentation, de la santé et autres, on en vient à de vraies politiques d'investissement. Alors qui peut être, c'est très vrai en Afrique du Nord, dans l'immobilier. Et puis je pense en Afrique subsaharienne, on voit une vraie explosion de ces investissements dans des logiques d'entreprises. Alors qui peuvent être des entreprises européennes, par exemple, pour l'Afrique, ou des entreprises sur place. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté d'orienter ces financements, et qui parfois peuvent aller très loin, parce que ça peut être même cette diaspora qui dit, alors c'est le fameux phénomène des RIPAT, donc je retourne au pays, et c'est pas juste pour y passer des vacances, mais c'est pour y développer une activité, et donc aussi prendre un risque, parce qu'au-delà de l'argent qu'on peut perdre, évidemment, il y a aussi un risque si je prends du temps en disant je développe une activité économique dans le pays. Et ça, c'est aussi une nouveauté, y compris de la part de personnes qui n'ont peut-être jamais vécu dans le pays. C'est là où on vient aux deuxième ou troisième génération.
Un phénomène de retour au pays qui est peut-être lié au malaise croissant dans la diaspora, un malaise qui a été révélé par un sondage Opinionway en février dernier. 66% des personnes interrogées qui étaient nées ou qui avaient des descendants nés en Afrique, des ascendants pardon, nés en Afrique, estiment qu'elles sont victimes de racisme. C'est aussi ce qui pousse de plus en plus de gens à partir, Jean-Michel Huette.
Alors, je pense que ça peut jouer. Et puis il y a aussi, enfin là, c'est le côté un peu hélas négatif, mais il peut y avoir aussi un côté positif, en tout cas vu du côté africain, c'est que l'ambiance, et je mets de côté la partie Covid, l'ambiance en Europe est un peu morose. Aujourd'hui, la croissance économique, le vrai développement, il est plutôt dans les pays émergents. Et encore une fois, je mets de côté la crise sanitaire qui complexifie un peu les choses.
Et les retours auxquels on assiste, c'est vers quel pays majoritairement?
Aujourd'hui, on commence à en voir dans des pays comme le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc, si je prends les pays francophones, plus historiquement, parce que c'est vrai que c'était la grande tendance, les pays anglo-saxons, comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud ou l'Égypte dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on voit une vraie tendance. Et encore une fois, c'est pas forcément qu'un retour, c'est parfois des jeunes qui sont nés en Europe. Donc, leurs ascendants sont africains, mais qui décident de franchir le pas et d'aller tenter l'aventure économique en Afrique.
Jason Gagnon, sur ce phénomène de retour ou d'arrivée pour la première fois dans un pays dont ses ancêtres sont originaires.
Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Cela ressort aussi de nos propres études avec des collectes de données qu'on avait fait dans plusieurs pays. Je crois aussi plutôt à l'histoire plutôt positive, c'est-à-dire l'Afrique est un continent qui est en croissance économique, croissance sociale aussi. Et je crois qu'il y a des opportunités, surtout pour les jeunes, qui sont assez intéressantes au niveau d'investissement, au niveau sur plein de secteurs. Et on voit ce retour, ce qui est une décision qui est prise au niveau économique, mais aussi au niveau peut-être de connexion avec ses origines. Il y a plein d'histoires qu'on peut construire autour de ça, mais ça c'est quelque chose qu'on constate évidemment. avec les données.
Pour les migrants, les envois d'argent sont aussi une manière de garder le lien avec le pays d'origine. C'est le point de vue de Dama Diminescu, enseignante-chercheuse à l'école d'ingénieurs télécom ParisTech.
La majorité souhaite se construire des maisons, ils aident aussi à la famille, ils payent des écoles pour leurs enfants et ils envoient souvent de l'argent aussi pour leurs vacances. Parce que même s'ils sont sédentaires, ils sont quand même circulants, ils vont souvent dans leur pays d'origine. On le fait d'une manière quotidienne et qu'il n'y a plus, si vous voulez, cette communication qui souplait l'absence. C'est une façon de vivre ensemble et ça change tout. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent le Skype pour manger ensemble, le soir. J'ai filmé des séquences quand les autres regardent la télé, mais la fenêtre reste ouverte, si je peux dire, sur ce monde-là. Ils ont des gens qui font des traces à leur mère et en même temps parlent à Paris avec leur sœur. Il y a plein de situations qui nous montrent que ce que je dis là, cette façon de vivre ensemble est quelque chose de nouveau et qui change beaucoup dans le vécu.
Voilà un extrait de l'ancienne émission Place de la Toile sur France Culture. C'était le 20 avril 2010. Que vous inspirent ces propos, Jean-Michel Huet?
Effectivement, il y a une dimension humaine qui est importante. Le vivre ensemble qui est cité, ce n'est pas uniquement une logique économique. Et puis, on a beaucoup parlé de la jeunesse. Mais un effet aussi, c'est que les diasporas vieillissent. Parce que voilà, ils vivent surtout dans les pays développés. Et que certains, leur investissement, c'est aussi pour préparer la retraite. Au Maroc, 40% des fonds de la diaspora, c'est de l'immobilier. Et c'est souvent de l'immobilier en vue de la retraite. Et pas forcément pour gagner de l'argent derrière. C'est aussi pour avoir sa maison une fois la retraite venue.
Et il faut aussi évoquer les transferts d'argent du sud vers le nord, dont on parle très peu, Jason Gagnon. Pourquoi cette réalité, justement, est souvent occultée? Une volonté de préserver peut-être une image héroïque du migrant et de ne pas parler de ces soutiens économiques envoyés par les familles restées au pays.
D'une part, il y a peut-être ça. De l'autre part, il y a, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été très constant dans le temps. On l'a vu surtout après la crise de 2008-2009. Où, par exemple, il y avait des flux qui sont partis du Cap-Vert au Portugal et du Brésil au Portugal. Finalement, il faut voir la migration et les migrations et les transferts de fonds comme pas une relation pays en développement, pays non en développement, Afrique ou Europe, plutôt un échange entre pays. Donc ce continuum de vie économique peut se faire entre n'importe quel pays. Et donc il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Il y a le niveau économique, le niveau social, il y a les réseaux sociaux, il y a par exemple au Cap-Vert, 2/3 de la population qui se dit capverdienne n'habite pas au Cap-Vert. Donc c'est quand même énorme et cela emmène des enjeux et des transferts et des flux qui des fois dans les statistiques montrent une histoire qui n'est pas très cohérente avec celle qu'on a peut-être en tête.
Jean-Michel Huet.
L'exemple est très bon parce qu'avec la crise de 2008, si le Portugal n'a pas connu l'histoire de la Grèce, c'est en grande partie grâce à l'argent qui venait de l'Angola. Mmh. Et c'est une forme de placement sécurisé aussi pour des gens plutôt aisés dans Angola et qui ont mis de l'argent au Portugal.
Alors on arrive presque au terme de cette discussion. Un dernier mot peut-être, Jean-Michel Huet, sur le rôle que pourrait jouer la diaspora dans l'essor des pays en développement.
Je pense qu'on est au début de l'histoire et que ça va s'accentuer. Après, il y a un autre phénomène dont on a peu parlé, puisqu'on était plutôt sur la dimension économique, c'est aussi un rôle politique. Et il y a beaucoup de questions qui se posent en plein de pays sur les doubles nationalités, qui sont parfois autorisées, parfois interdites, et aussi sur le vote des diasporas. Donc il y a aussi un enjeu politique, je pense, qu'il ne faut pas négliger.
Un enjeu économique qui se double d'un enjeu politique, Jason Gagnon.
Oui, exactement. Et juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je crois qu'une pénurie ou un manque dans toute cette discussion politique, c'est cette question de la double nationalité qui rend parfois dans des situations qui sont pas très cohérentes avec le monde dans lequel on habite aujourd'hui.
C'est-à-dire
qui mène à des situations d'apatride, par exemple, ou des gens qui sont en situation où il y a un risque où ils sont nés sans avoir le droit d'avoir la nationalité dans le pays où ils sont nés, ni celui de leur pays, entre guillemets, d'origine, celle de leurs parents ou celle d'où normalement ils auront droit.
Eh bien, un grand merci à tous les deux, Jean-Michel Huette et Jason Gagnon, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Jean-Michel Huette, je rappelle que vous êtes expert et associé au cabinet de conseil Bearing Point, en charge du développement international et de l'Afrique. Et Jason Gagnon, économiste au sein de l'unité migration et compétences du centre de développement de l'OCDE. Un grand merci. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Éviction d'Emmanuel Faber de la direction de Danone lundi dernier et suspense pour l'agroalimentaire responsable. Les financiers ont eu raison de l'élan social.
Eh bien ça, c'est le scénario lu rapidement. Deux fonds d'investissement étrangers qui bousculent avec moins de 3 et 5% de son capital. Le champion français des eaux en bouteille, produits laitiers et végétaux et qui arrive à faire tomber en quelques semaines le PDG en poste depuis 6 ans, premier à avoir engagé son entreprise dans la voie responsable de société à mission. Steve Jobs de l'agroalimentaire, comme l'appelle un analyste financier, finance 1, donc société 0. Vu de plus près, c'est un peu différent. Danone, qui a subi de fortes pertes l'année dernière avec une marge opérationnelle grignotée à 14%, a de moins bonnes performances financières que ses concurrents comme Nestlé ou Unilever, et le plan de restructuration Local First de novembre, destiné à rétablir les marges, n'a pas convaincu. Il est urgent de se pencher sur la direction de l'entreprise et la structure du conseil d'administration, estimait l'un de ses actionnaires. Et après une intense campagne dans la presse et auprès du conseil, les deux fonds minoritaires, l'américain Artisan Partners et le britannique Bluebell Capital, sont parvenus à déloger Emmanuel Faber de son poste de directeur général.
Et c'est donc d'abord une victoire pour les fonds d'investissement dits activistes.
Oui, on les appelle activistes parce qu'ils tentent d'influer directement sur la stratégie des entreprises et qu'ils visent pour cela des entreprises dont les votes au conseil d'administration sont accessibles. Avec un capital très ouvert et des actions en baisse, Danone était une proie idéale, dit l'expert en société Pierre Liret. Et pour ses fonds entrés l'année dernière seulement au capital, c'est donc une victoire éclair. Le problème pour tout le monde, c'est que le putsch reste aux portes du palais, pour ainsi dire, car si le conseil d'administration a retiré à son PDG son rôle opérationnel de directeur général, Emmanuel Faber conserve celui de président du conseil d'administration, le P du PDG, chargé de la stratégie, alors que les activistes militaient pour son éviction pure et simple et l'abandon du plan Local First. Résultat, Emmanuel Faber, président assiégé, risque d'être limité dans son action. Un cabinet spécialisé, Bernstein, craint que tout change pour que rien ne change. Il l'écrit, un directeur général qui n'en a que le nom et qui met en œuvre les plans de son président et la répétition des tensions avec les actionnaires d'ici quelques années.
Alors la finance fait plier la gouvernance pour le pire ou pour le meilleur ?
Eh bien, du point de vue du management, c'est la révolution au pays des PDG, la fin de l'unicité de commandement, écrit Muriel Jazor dans Les Échos. Les événements de Danone, dit-elle, s'inscrivent dans un mouvement plus vaste de séparation des pouvoirs dans les grandes sociétés cotées en bourse en France, pour lesquelles les PDG ne sont plus majoritaires. Souvent, ce qui se passe, c'est que le directeur général adjoint devient directeur général et le président directeur général, le PDG, devient président du conseil d'administration. J'espère que vous me suivez.
Absolument.
C'est le cas en tout cas récemment. Ah bah très bien. Le cas pour L'Oréal à la fin de l'année dernière. Ce sera le cas du réassureur Score l'année prochaine ou de Valeo en 2022. Garantie d'indépendance pour les investisseurs étrangers, de transition stable et pacifiée pour le capitalisme français, poursuit Muriel Jazor. Mais la transition chez Danone pourrait bien ressembler à une guerre des tranchées. Avant son éviction, Emmanuel Faber avait en effet renforcé ses positions en déplaçant sa numéro 2 de la direction vers le conseil d'administration. Et dans Les Échos toujours, David Barou en tire trois leçons, écrit-il. En rendant public les tabous d'un conseil d'administration trop prudent ou consanguin, les fonds activistes savent appuyer là où ça fait mal. Ça, c'est la première leçon. Ensuite, la gouvernance solitaire est dangereuse pour l'entreprise car elle étouffe les débats stratégiques. Mais le jugement à la Salomon, voici la troisième leçon, c'est-à-dire couper la poire en deux, est aussi dangereux car en ne déboutant personne, il entraîne un risque de pourrissement et mieux vaut une crise dure et courte qu'une crise sourde et qui dure, finit David Barou.
Reste le symbole, Xavier, le premier grand groupe responsable serait incompatible avec la rentabilité boursière ?
Alors, Emmanuel Faber, c'est vrai, a engagé Danone dans cette voie depuis 15 ans. C'est la première entreprise française cotée à avoir adopté le statut de société à mission en juin de l'année dernière. L'entreprise s'engage ainsi à rendre des comptes à ses actionnaires sur ses objectifs, en l'occurrence en matière de santé, d'environnement et de gouvernance. Mais alors, même si les deux fonds activistes clament leur attachement, disent-ils à la démarche, remarque Morgan Bertrand dans l'Observateur, l'un des deux, Artisan Partners, c'était pourtant l'un des rares à s'être opposé à l'adoption du statut de société à mission, validé quand même à plus de 99% l'année dernière. Quant à Danone, toutes les interprétations de son engagement avaient déjà été faites, du greenwashing pur et simple à la quête spirituelle du dirigeant. Mais pour l'analyste Sandra Bernard-Collinet et l'économiste Mathilde Lemoine dans le JDD, Danone n'a pas su non plus rassurer les investisseurs responsables, faute d'avoir mis en place, écrivent-elles, un système de comptabilité intégrant les critères sociaux et environnementaux à la logique financière, ce qui aurait permis de réduire les risques de conflit entre les parties prenantes. On y revient. Alors, vous venez de déboulonner une statue de Milton Friedman, avait lancé Emmanuel Faber à ses actionnaires l'année dernière. Il avait aussi ajouté juste après que ceux que cela inquiète se rassurent, il en reste beaucoup.
Merci Xavier Martinet. Votre journal de l'écho est à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.
I saw your eyes, my rock, my pillar. At first, but soon it was the same trouble in that bubble. Burst. This ain't going nowhere. Fiction in the air. Do you even know how to care? What am I doing? This is fantasy. Don't do it.
Don't do it.
Don't do it. This is fantasy. Don't do it.
Don't do it.
Don't do it. And what's that? Oh no, I'm all about my fame, my win. Oh, oh. And now you're out my head, fiction in the air. Do you even know how to care? What am I doing? This is fantasy.
Un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade et Margot Boult à la réalisation. C'était Anne de Pelchin à la technique aujourd'hui, Nasser Moussaoui. Demain, c'est le marché du métal et des terres rares qui va nous intéresser. On parlera de la dépendance européenne à ces matériaux indispensables aux nouvelles technologies. Nous serons en compagnie des économistes Philippe Chalmin et Karine Samuel et du journaliste Guillaume Pitron. D'ici là, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
Don't do it,
don't do it.
This is fantasy.
Don't do it.
France Culture. L'esprit d'ouverture.